Tina, en fait, c'est une présentation.
Donc, je suis...
Et enchaînée par ta
mon nom marital, c'est Maciala. C'est le nom long et compliqué que ce monsieur m'a donné, entre autres. Et mon nom, je travaille avec mon nom de jeune fille, je suis docteur Goma. Donc, je suis gynéco-obstétricienne. Je suis assistante au CHU à Pointe-à-Pitre dans le Guadeloupe et je suis actuellement en métropole pour quelques temps avant de repartir. Je ne suis pas du tout, il y a plusieurs sous-spécialités, je ne suis pas du tout en sous-spécialité TMA. Vous comprendrez pourquoi, au vu de mon exposé, vu toutes les questions que ça me pose. Ça a été un véritable défi. Dans tous les sens du terme, d'être là parmi vous ce matin, mais je suis bien contente d'être là et en fin de compte, je suis bien contente d'avoir accepté de faire cette présentation parce que ben, je vais vous dire toutes les questions que ça m'a remis à jour. Donc, si je vous ai dit que je ne suis pas spécialiste en PMA, c'est que, bon, je suis gynéco, c'est vrai, je suis obstétricienne, mais mon truc, c'est mettre les bébés au monde, quoi. C'est vraiment sortir les bébés du ventre de leur maman, aider les mamans et tout. Et là, la PMA m'amène avant. Donc, on va essayer de parler. Je suis assez cool. Je veux dire, je vais essayer d'étayer un petit peu ça de mon expérience, du suivi de ces patientes-là. Parce que je n'ai pas fait les bébés éprouvettes, mais je les ai eues en consultation, en suivi de grossesse. Et voilà. Donc, on va se lancer parce qu'on a du taf. Il y a des choses à dire. Alors, donc, le thème qui m'a été proposé donc, la PMA aujourd'hui, cadre légal et développement. Alors, j'ai fait les choses à l'envers. En fin de compte, j'ai préparé ce que j'avais prévu avant de me rendre compte que mince, c'était le cadre légal. Et en fin de compte, cadre légal et développement, je vous assure, c'est pas du tout mon truc. Moi, je suis une clinicienne. Donc, tout ce qui est réglementation et tout, je l'ai. Mais ce n'est pas dans ma présentation. Donc, je vais vraiment aborder la PMA comme une clinicienne. Donc, si vous avez besoin de tout ce qui est loi et tout ça, tout ce qui est légal, bien sûr, je le cite dans ma présentation. Mais je l'ai sur l'ordi, donc vous me dites et je le projette. Mais ce n'est pas dans mon diaporama. J'aurais fait droit ou avocat. Bien que ça nous guide dans nos pratiques et vous allez voir pourquoi. Donc, l'assistance médicale à la procréation. Je vais m'asseoir. Bien. Tout ça. Oulala, viens à côté de moi. Ah oui, mais assieds-toi à côté de moi, Tabitha. Alors, j'avais prévu un très beau film avec tous les spermatozoïdes qui courent partout, qui vont chercher l'ovule. Et je suis désolée, le film, je ne le trouve plus. Voilà, c'est une journée comme ça, j'ai raté mon train, mais on va y arriver. Alors, l'histoire de la médecine est jalonnée de dates qui ont marqué les esprits. Alors, nous venons de voir plusieurs dates, les plus importantes en fin de compte. Mais ce que je veux que vous reteniez, c'est qu'il y a eu un tournant. Comment je vais faire en debout ici? Il y a eu un tournant. Ce tournant, ça a été le 25 février 78. Tout d'un coup, sur cette terre, ce jour-là, un bébé éprouvait est né. Diapo suivant. Ce bébé-là, c'est là, je pense. Non.
Non.
Mais t'as bida.
Oui, mais je sais pas
comment. Alors, il n'y a pas que moi. Donc, ce bébé-là, c'est le premier bébé. Elle s'appelle Louise Brown. Les plus jeunes n'en ont pas entendu parler, mais les plus âgés, les plus mûrs, on va dire, se rappellent de ce moment. Ça a été un tournant décisif et... Tout d'un coup, il est né sur cette terre pour les femmes et pour les maris aussi, pour les hommes aussi, mais surtout pour les femmes. Un espoir formidable. Pourquoi un espoir formidable? cette naissance est apparue sur un drame. Sur un drame qui remonte à la nuit des temps. C'est le drame de l'infertilité, de la stérilité. Je dis la nuit des temps parce qu'aussi loin qu'on remonte dans le temps, il y a eu des dames, des femmes qui n'ont pas pu voir aboutir ce projet qui est marqué dans nos gènes, j'en suis convaincue, être maman. La Bible, moi j'ai trouvé ça formidable en retravaillant ça, la Bible en parle tout le temps. Ça veut dire que Dieu est au centre aussi, est près de celle qui traverse. La Bible est jalonnée de femmes stériles, hein, Donc, le 28 juillet 1978, premier bébé éprouvé. Nous allons voir ce qui a suivi de ça. Une autre chose que je trouve importante, quand je vous dis que ce drame concernait surtout la féminité, c'est que maintenant de nos jours, vous êtes tous au courant, ça ne concerne pas que les femmes. Hein, ce besoin d'être papa, maintenant, peut naître dans le cœur d'un homme sans qu'il y ait une maman à côté de lui. Donc, dans cette façon d'aborder ce que j'ai appelé un drame, mais qui maintenant n'est plus un drame, il y a donc la notion que ces messieurs se sont introduits et s'investissent de plus en plus dans ce projet de paternité-maternité. Parce que c'est aussi... On continue. Donc, Louis Brun. Vous avez vu, moi j'aime bien, elle a grandi... Donc, définition de la... Oui, elle a grossi aussi, oui, bien sûr. Comme un peu nous tous. Donc, définition. Donc, les procréations médicalement assistées ou techniques d'assistance médicale à la procréation, soit AMP, sont l'ensemble des techniques médicales et biologiques qui comportent la manipulation des gamètes. Les mots, je les pèse. La manipulation des gamètes avec ou sans fécondation in vitro. Dans le but d'obtenir une grossesse chez un couple, je pèse le mot couple, qui sans cela risquerait de demeurer infécond. Donc, ces techniques peuvent aussi bien s'appliquer dans le cas de risque important de transmission à l'enfant de maladies graves et incurables. Je passe vite, on y revient. De façon à ne transmettre que des embryons qui en seraient indemnes. Nous avons vu ça un petit peu tout à l'heure, mais nous allons revenir dessus. Donc, diapo suivante. En France, j'ai besoin de ma bouteille d'eau, ça commence déjà. En France, c'est pour vous dire à quel point c'est important. En France, un couple sur 10 suit un traitement pour booster sa fertilité. Un couple sur 7 consulte un médecin parce qu'il rencontre des difficultés à procréer. Et un couple sur 10, au final, aura recours à la PMA. J'ai trouvé important de vous mettre ça parce que je vous laisse, si vous n'en êtes pas conscient, vous rappeler combien c'est un problème tellement fréquent. Ça court les rues, ça court les églises, ça court les hôpitaux. Un couple sur 10 ou 7 rencontre un problème, est confronté à ce problème. Donc, ça ne veut pas dire qu'il aboutira, qu'il ira jusqu'à une technique de procréation médicalement assistée, mais ça veut dire que ça va le ronger pendant un certain temps. Diapo suivant. En France, toujours quelques chiffres, c'est important, comme ça on pose le problème. En 2008, il y a eu 120 000 tentatives de PMA, avec 2,4% de naissances. Moi, je ne suis pas mathématicienne non plus. J'aurais aimé savoir combien de bébés, mais ça vient. En 2010, donc plus près de nous, excusez-moi, il y a eu 22 000 enfants en France nés par la PMA. Vous vous en rendez compte? C'est tellement fréquent, hein? Pour un total, alors là, ça fait bondir, mais vous comprendrez pourquoi. De 140 000 tentatives. Il y a eu 140 000 fois des tentatives en France sur notre territoire d'obtenir un bébé. Dedans, si on enlève les 22 000 naissances, qui est mathématicien ici, il y a plus de 100 000 tentatives qui ont échoué. Vous vous rendez compte des drames? Donc, ce que je veux vous dire, autre drame. On est parti dans l'anxiété, là, d'un drame, celui « je ne pourrai jamais avoir d'enfant ». On tombe dans un autre drame, et je voulais vous montrer la fréquence de ce drame en vous donnant les chiffres. C'est autour de vous, c'est au boulot, c'est à l'église, c'est dans mon immeuble. Il y a des couples qui se heurtent aux échecs de la PMA. Ces 22 000 enfants représentent 2,7%, vous voyez, on a monté, hein, 2,7% des naissances, soit un enfant sur 40. Parmi eux, 6% sont nés par don de gamètes et accueil d'embryons. On va voir ce que c'est. En Europe, c'est encore plus fréquent. En Europe du Nord, ils sont à 5,7%. Diapo suivante. Alors, oh, t'es un chou, toi. Donc, je vous ai dit que j'étais pas très dans le droit, mais donc, les techniques ici en France sont encadrées par les lois de bioéthique. Si vous les voulez, je les ai, mais il suffit de taper sur Internet et vous les avez. Donc, elles ont été révisées en 2011 et donc, il y a les lois bioéthiques et il y a le guide des bonnes pratiques cliniques et médicales. Donc, les indications, selon ces lois, selon ce cadrage juridique, l'AMP est possible en France seulement dans certains cas. Chez les couples hétérosexuels, d'accord, dont les deux membres du couple sont vivants au moment de la tentative de la demande, mais aussi de la tentative, hein, donc s'ils ont divorcé entre-temps, ça ne marche plus, ils doivent être en âge de procréer. Et un truc qui s'est ouvert, ils peuvent être concubins ou mariés. Tout ce qu'on leur demande, c'est de prouver qu'ils vivent ensemble depuis 2 ans. Diapo suivante. Voilà, c'était le beau film. Je suis désolée, on ne va pas le voir. Diapo suivante. Alors, donc nous allons aborder les différentes techniques. Puis, avant d'aborder les différentes techniques, je pense qu'il est important... Et il y a une psychologue... Mais je ne veux pas marcher sur vos plates-bandes.
Mais la clinique aussi.
D'accord, parce que elle va rebondir dessus. Un couple, donc, je veux. On est en clinique. Je veux que vous vous mettiez pas dans la peau, parce que je pense que ce n'est pas possible, par respect pour la souffrance. Je veux juste que vous vous disiez, quelqu'un près de moi vit ce drame, a cette souffrance au fond de lui et au fond d'elle et de lui, et donc commence, entame cette démarche. Et je veux vous montrer à quel point, c'est, rien que l'antichambre est complexe, il faut passer, on va passer rapidement. Il faut donc aller demander une consultation dans un centre de PMA agréé. Alors, en général, de par ma pratique de gynéco-obstétricienne, nous les avons en consultation. Ils consultent d'abord leur gynéco. Puis, le gynéco fait un panel d'examens, puis dit, alors là, on se heurte à un mur, cela ne me concerne plus, je vous réfère au centre de PMA. Donc, en général, ils sont adressés par leur gynéco. Ils doivent confirmer par écrit une demande d'AMP. Ils doivent rencontrer le médecin de la PMA et signer avec lui une entente préalable. Puis vient le bilan biologique préconceptionnel, qui est aussi un gros. Donc, la sécurité sociale, nous sommes dans un pays béni, c'est vrai, prend en charge à 100% si la femme a moins de 43 ans. Ça, vous le savez. Diapo suivante. Diapo d'avant. Je vais passer rapidement sur le bilan préconceptionnel. Si vous avez besoin, on en reparlera. Est-ce que vous jugez, vous avez besoin de le savoir ou on peut avancer? On peut avancer. Donc, entre autres... Je tiens à dire qu'il faut qu'ils arrêtent de fumer.
entre autres dans les contraintes, une contre-indication, une absence de contre-indication à la grossesse est vérifiée. Et le couple est informé des complications liées au fait d'adhérer à une procréation médicalement assistée. Les différentes techniques. Alors, ce sont l'insémination artificielle, la fécondation in vitro avec transfert d'embryon, et l'ICSI, intracytoplasmique sperme injection. Diapo suivante. L'insémination intra-utérine. Alors, cette insémination... Diapo suivante, c'est quoi déjà? Montre. Non, remonte alors. Donc, c'est très simple. C'est l'insémination est la, le recueil du sperme dans une sorte de dans une sorte de petite seringue, dans une éprouvette, dans une sorte de petite seringue, et avec un cathéter, on va à l'intérieur de l'utérus et on dépose le précieux liquide dans l'utérus. En 2010, il y a eu 60 000 tentatives d'insémination artificielle. Le taux de grossesse par cycle est de 10 à 12%. La Sécu prend en charge jusqu'à 4 échecs. Alors, c'est très simple. Non. Les indications, c'est la technique la plus simple. Les indications de l'insémination intra-utérine sont particulièrement féminines. Elles sont liées à des obstacles cervicaux au niveau du col de l'utérus. Il y a deux sortes d'insémination intra-utérine. On peut passer à la diapo suivante. Il y a l'IAC, donc avec don de, avec le sperme du conjoint. Et il y a l'IAD avec le sperme du donneur. Cela coule de source, il y a plus de chances d'avoir une grossesse si c'est le sperme du donneur.
Du conjoint,
excusez-moi. Diapo suivante. Qu'est-ce que tu dis?
Pourquoi ça coule de source?
Cela fait appel à des données d'immunité. C'est comme dans le cancer du col. Quand on s'est habitué à un partenaire, notre...
Est-ce que ce sont les facteurs épigénétiques?
C'est possible, oui, que ça porte ce nom.
C'est le milieu.
Donc, est-ce que vous pouvez me poser des questions après? Non, mais...
Il y a trois questions à la fin.
Mais parce qu'en fin de compte, j'essaie de résumer ce truc. Diapo suivant. J'ai trouvé important... étant donné qu'on aborde l'insémination artificielle par don de sperme par un donneur, de vous dire, au cas où ça vous intéresserait, ce que vivent aussi les donneurs. Donc, un donneur, et tout cela, c'est dans les lois de bioéthique. Donc, le don du sperme est volontaire, anonyme et gratuit. Le donneur doit être bénévole et âgé de moins de 45 ans, avoir fait preuve de sa paternité au moins une fois, vous voyez ça, je ne savais pas. Il doit vivre en couple et avoir l'accord de son conjoint ou de sa conjointe. Et il doit accepter les règles de l'anonymat. Alors ça, c'est tellement important. Il passe en consultation au psychologue, où on voit qu'il est bien... Et on lui répète que la filiation entre le donneur et l'enfant... n'est pas reconnue légalement. Diapo suivante. Le couple receveur doit aussi avoir une évaluation psychiatrique ou psychologique et il doit signer un consentement auprès du juge du tribunal de grande instance. En 2010, il y a eu en France 1100 naissances de spermatozoïdes ou dans de vos sites. C'est ça qui est juste. Vous êtes d'accord avec moi? Vous me suivez? Donc, 1100 naissances de spermatozoïdes et 188 naissances de vos sites. Les femmes sont beaucoup moins enclines à donner leurs ovocytes. Il y a un grand une grande pénurie de femmes donneurs. On peut continuer. La technique. Je vais passer très rapidement. Vous êtes au courant. Induction de l'ovulation par piqûre, monitorage par l'échographie, déclenchement de l'ovulation par piqûre encore, préparation de recueil des spermatozoïdes, puis préparation des spermatozoïdes. Ils sont triés. Puis, une fois qu'on a les spermatozoïdes lavés, ils sont injectés dans l'utérus. Diapo suivante. La fécondation in vitro. C'est la deuxième technique. Alors, au niveau de la fécondation in vitro, je vais vous présenter d'abord la fécondation in vitro classique. Alors, c'est très simple. La confrontation. Pourquoi c'est confrontation? Moi, j'aurais dit la rencontre, c'est plus cool, plus joli, plus romantique. Ils se battent pas dans l'utérus, hein. Ils se rencontrent. Donc la rencontre entre les deux, les gamètes mâles et femelles, est complètement court-circuitée parce qu'elle se fait hors de la femme, hors de l'appareil génital féminin. Donc, il y a une diapo suivante, qui résume tout. Voilà. Donc, après tout ce qu'on a vu sur le haut, induction de l'ovulation, pourquoi? Parce qu'on veut avoir le plus possible d'ovocytes. Donc, il y a une stimulation ovarienne avec un monitorage, vous avez vu la photo à l'échographie, où quand ils sont mûrs, ils sont prélevés. C'est un prélèvement éco-guidé. Si je mets des trucs trop techniques, il faut me le dire. J'essaie de simplifier au maximum. Donc, le recueil des ovocytes, le prélèvement d'ovocytes, a lieu le jour même qu'il y a le recueil des spermatozoïdes. Puis, ils sont mis ensemble, donc il y a fécondation. Puis, à partir du moment où ils sont mis ensemble, ils sont la fécondation et l'embryon sont surveillés au microscope. Diapo suivant. Voilà, c'est cette diapo que je cherchais. Elle est super. Donc, un prélèvement de l'ovocyte, on rajoute les spermatozoïdes, fécondation, une fois qu'il est fécondé, insémination dans l'utérus. Diapo suivante. Alors, je vous ai mis cette diapo parce que selon les techniques, la surveillance de l'embryon au microscope donne ça. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas eu le film parce que la croissance d'un embryon, c'est vraiment quelque chose de particulièrement, je vais en guillemets, magique. Il se multiplie d'une manière merveilleuse et à une vitesse, mais c'est monumental. Il n'y a pas le film. On va passer. Non, repart. J'essaye de te. Donc, je vous ai mis ces différents stades parce que, donc, 2 jours après. Merci. Donc, je vais passer. Donc, on va passer à la suivante. On reviendra si vous avez des questions dessus. Alors, la suivante, c'est l'ICSI. Donc, je l'ai séparée de la fécondation in vitro classique. Pourquoi? Parce que dans l'ICSI, diapo suivante. Attends, remets la diapo. Vous voyez, dans la fécondation in vitro classique, dans l'éprouvette, le spermatozoïde rencontre l'ovule. Dans l'ICSI, le spermatozoïde est introduit dans l'ovocyte. Diapo suivant. Voilà. Donc, c'est encore plus artificiel. En 2008, en France, il y a eu quand même 15 500 embryons congelés qui ont été issus d'une fécondation in vitro et qui ont été utilisées pour une ICSI. Et que ça a donné naissance à plus de 2000 enfants. Diapositive. Alors, l'ICSI ouvre la fenêtre ou la porte grande ouverte au diagnostic préimplantatoire. Qu'est-ce que c'est que le diagnostic préimplantatoire ? Ce diagnostic, on en a parlé tout à l'heure, il a donné naissance au bébé voilà, un nom comme ça. Alors, pourquoi diagnostic préimplantatoire ? Il y a des familles où il y a des maladies génétiques, où il y a eu naissance d'enfants, où il y a eu des choses difficiles. Et donc maintenant, la science offre la possibilité que, une fois que l'embryon est fait, donc qu'on a fait l'ICSI, avant d'implanter cet embryon dans l'utérus de la mère, cet embryon est examiné et on a ce qu'on appelle un diagnostic préimplantatoire. Diapo suivante. Donc, une fois qu'on arrive à J3 ou J5 de vie de l'embryon, il y a ce qu'on appelle une biopsie embryonnaire. Dans cet embryon sont prélevées des cellules. Ces cellules sont prises et examinées pour vérifier l'absence de la maladie génétique. Oui. Alors, dans les lois de bioéthique en France, on n'a pas le droit de chercher s'il y a d'autres maladies. On ne recherche que la maladie étiquetée. Puis, une fois qu'on a trouvé un embryon indemne, parce qu'il y en a qui ne sont pas indemnes, il est réimplanté dans l'utérus de la mère. Diapo suivant. Donc, les couples qui peuvent bénéficier d'un diagnostic préimplantatoire, selon les conditions édictées par la bioéthique, doivent bénéficier, comme je vous l'ai dit, d'un diagnostic préimplantatoire dans un but diagnostique. Donc, recherche d'une pathologie ayant existé chez les ascendants, chez les parents, ou dans la fratrie. Par exemple, si c'est une maladie liée au chromosome X, d'accord ? Déjà, quand on regarde si c'est une fille ou si c'est un garçon, il y a un tri. Donc là, c'est dans un but de diagnostic. La deuxième indication est dans un but de dépistage. Pourquoi dépistage ? Nous étions dans un but diagnostique, il y avait la certitude que cette pathologie existait dans la fratrie ou chez les ascendants. Là, c'est dans un but de dépistage, c'est-à-dire cette pathologie a existé, mais éventuellement, elle pourrait surgir chez les descendants, chez cet enfant. Donc, c'est du dépistage. À cause de ce dépistage, on va faire tout ce qu'on a vu. On va induire stimuler une ovulation, prélever des ovocytes, faire l'ICSI. Donc, avoir une panel d'embryons, les trier et choisir, dans un but de dépistage, l'embryon qui éventuellement serait indemne. Vous allez me dire, vous avez tous dans votre cerveau, on fait quoi des autres ? Je vais vous le dire. C'est là la catastrophe. C'est là la catastrophe. Alors, la troisième indication est dans un but thérapeutique. Cela concerne le bébé médicament. Vous connaissez le bébé médicament ? Donc, c'est le bébé ou là. Qu'est-ce que c'est que le bébé médicament ? Alors, on est vraiment dans le domaine où il y a une pathologie dans la famille. Qu'elle soit avec la probabilité d'apparaître. Mais dans le cas du bébé médicament, cette pathologie existe vraiment dans la fratrie ou
Elle est chez quelqu'un de la femme. Ou même les ascendants. Ce bébé-là, donc on refait toute la démarche de l'ICSI, on fait les embryons, mais ce bébé indemne va servir à guérir quelqu'un de la fratrie, quelqu'un de sa famille. Diapo suivante. Voilà. Ce bébé est un donneur de tissu. Donc, comme je vous l'ai dit, il s'agit de concevoir un enfant non atteint par la maladie génétique risquant d'être transmise par les enfants ou étant par les parents ou ayant été transmise par les parents à quelqu'un de sa fratrie. C'est le cas de ce bébé-là. Diapo suivante. Donc, pour donner naissance à un bébé médicament, les médecins, les scientifiques, parce qu'il y a les biologistes aussi, doivent créer en moyenne 20 à 30 embryons humains dans le but de les sélectionner. Tout est référencé, je vous donne toutes les références, je ne vous raconte pas des bobards. À la fin, il restera environ 3 16e des embryons sélectionnés au départ. On écarte donc les embryons qui présenteraient un handicap ou toute autre faiblesse génétique, soit environ un quart des embryons recueillis. Diapo suivante. Ça se passe de commentaires. Diapo suivante. Une chose que je tiens à dire qui est tellement importante. Alors, quand un couple fait une demande de Dixie, et en fin de compte, les couples ils savent pas tout ça, ils connaissent vaguement les médicaments. Cela vient, c'est surtout une démarche de la part du corps médical pour proposer cela. Le couple, dans l'entretien, je vous ai dit, il doit signer des papiers en tant que il signe, il lui est remis des possibilités concernant les embryons qui vont rester. Il a plusieurs choix. Le premier choix, et les lois de bioéthique le disent, premier choix, c'est de toutes les façons, il n'y a rien d'urgent, on garde ces embryons, vous avez le temps de la réflexion, vous avez 5 ans. Donc, dans l'urgence de ce qui se passe, je pense que c'est très bien. Mais chaque année, le SECOS envoie à ces familles, donc dans la boîte aux lettres, il y a « Qu'est-ce que vous avez décidé de faire ?»
C'est quoi le SECOS ?
Ah, c'est le centre qui gère tout ce qui est… Voilà. Les embryons sont conservés dans de l'azote liquide actuellement. Donc, j'ai une photo, je crois. Elle va venir. Donc, chaque année, il y a cette lettre. Chaque année, ils doivent cocher ce qu'ils décident. Donc, soit ils reportent, soit s'ils n'ont plus de projet parental, ils peuvent donner les embryons à la science. Et on va le voir. En sachant que, je viens de vous le dire, tous les embryons qui étaient pas bien, sont conservés, mais peuvent être d'office, on peut signer un papier disant que ces embryons-là sont donnés à la science. Est-ce que c'est ce que j'ai dit clair? On continue. Ah, ma parole. Je suis où? La gestation pour autrui. Alors, je me suis demandé si je devais introduire la gestation pour autrui dans mon speech, mais je pense que c'est important d'en parler. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, c'est de la PMA, n'est-ce pas ? C'est l'insémination artificielle. De toutes les façons, alors, il y a deux sortes de gestation pour autrui. Non, il y a deux sortes de volets. La gestation pour autrui, ce n'est pas la procréation pour autrui. La gestation pour autrui, l'ovocyte et le spermatozoïde ne viennent pas de la mère porteuse. Elle est juste un utérus qui va porter ce bébé. Dans la procréation pour autrui, l'ovocyte peut venir d'elle. Donc c'est différent.
Cela est interdit en France. C'est important de vous le dire. Si vous ne le saviez pas, mais vous le savez, je pense.
Diapo suivant. J'ai besoin du document. S'il te plaît.
Je viens de vous le dire.
On passe.
Remonte. Alors, j'ai essayé d'aborder très rapidement. J'espère que je n'ai pas été trop dans le flou dans mes propos. J'essaie de résumer tout ce que j'ai dans ma tête. Il y a, à propos de la gestation pour autrui, j'ai jugé très important de vous lire ça parce que moi, j'ai trouvé que c'était tellement important. Alors, j'ai assisté à des conférences. Si vous êtes intéressé, je me dirai. Ça a été génial. Ça vient de finir la semaine dernière. C'est le corps de la vie à la mort. Il y avait l'université de la vie. C'est tout à fait chrétien. C'est fait par des professionnels, des psychologues, des médecins, par derrière, ils sont chrétiens. C'était génial.
Et regardez ce que j'ai lu.
Je veux vous le dire parce que c'est tellement important. Les chercheurs ont mis à jour, on parle de la gestation pour autrui, les chercheurs ont mis à jour que le fœtus était un être à la sensorialité très développée, ce qui fonde des échanges d'une grande intensité avec la mère. Il n'est donc pas simplement porté par la mère porteuse ou transporté par cette femme. Leur relation va laisser aux deux protagonistes une empreinte indélébile et va affecter également tout leur entourage. Il faut avoir vu l'enfant ramper sur le ventre de sa mère pour sa première tétée, ou l'avoir vu se calmer lorsqu'on lui fait entendre les battements du cœur de sa mère. Et cela fonctionne avec elle seule. C'est vrai. Pour percevoir, au passage j'ai trois enfants, pour percevoir que c'est le fruit de mois entiers de relations, d'échanges, de cohabitation. Dans la procréation assistée avec don d'ovocytes, on mesure combien la grossesse a permis à la femme de transcender le don et a fait d'elle une mère. Ce qu'ils disent en résumé, mais vous le savez, mais je veux vous le dire. L'accueil d'un enfant par une femme change à jamais sa vie. Elle gardera, il y a des échanges à travers le placenta, les cellules fœtales passent dans le sang maternel. Vous le savez, puisque actuellement, de plus en plus, il va y avoir dans le diagnostic, par exemple, la trisomie 21 et tout, et dans le diagnostic préimplantatoire, bon, tout ça va arriver dans les années qui viennent, on va juste prendre du sang de la mère et on va avoir accès à des données de l'ADN du bébé. Parce que les cellules fœtales passent dans le sang maternel. On n'est pas juste une mère porteuse. Cet enfant va à jamais changer sa vie. Bon, si elle le prend d'une manière banale, c'est bon. Mais elle, dans sa vie, elle portera, nous portons à jamais la trace des enfants que nous avons portés. Ce bébé aussi porte la trace de cette mère. Donc elle n'est pas seulement... il est où le ventre avec le truc là? C'est pas seulement un nombre. C'est une relation, c'est quelque chose de très fort. Et bon, moi je sais que c'est de Dieu. Alors, je vous amène à réfléchir un petit peu et j'aurai fini. Oui, passe. Donc, pourquoi je vous amène à réfléchir? Je pense vraiment que la vraie trahison est de suivre le monde comme un mouton. Mais le pire, c'est d'être un mouton pensant. C'est-à-dire qu'il dit, oh, il justifie tout ce qui se passe. Je ne peux pas concevoir que nous soyons sur Terre pour juste subir ce qui se passe dans les lois bioéthiques et subir l'avancée de la médecine. Je suis médecin. Je suis heureuse de tout ce qui se passe, de tout ce qui avance. La PMA a aidé tellement de couples. Mais où sont les dérives? Le vrai sens pour lequel je suis ici, quand je réfléchissais, je passais ça, c'est pour sonner la, tirer la sonnette d'alarme et vous dire, est-ce que vous réfléchissez à ce qui se passe autour de vous? On a vu tous nos contemporains, le nombre éventuel de contemporains qui sont touchés par ça et qui vont aborder ce, tout ce qu'on a vu, qui vont signer des papiers, qui vont avoir dans leur boîte aux lettres tous les ans. Vous faites quoi de vos embryons? Diapo suivante. Je ne vais pas faire d'éthique, ça va venir cet après-midi. Mais qu'est-ce qu'un embryon? Où commence la vie? C'est quoi? Ils se battent avec ça depuis des années, des dizaines d'années. Il n'y a personne qui a trouvé la réponse. Et vous l'avez trouvé? Ma question est sérieuse. Hein. Vous l'avez trouvé?
Oui.
Mais priez pour nos gouvernements et tout, ils n'ont toujours pas trouvé. Et c'est la grosse question. Hein. Alors, il est considéré comme un amas de cellules. Objet. D'accord? Sauf que, on dit quand même qu'il faut le respecter. Je pense qu'il va y revenir cet après-midi. Qu'est-ce qu'on fait des milliers d'embryons surnuméraires qui sont et qui remplissent les sécos? Diapo suivante. Il y avait, fin 2012, 186 000 embryons dans nos centres congelés. 32% de ce chiffre était sans projet parental. Moi, ça me remue ces trucs, ces chiffres, ça me remue. C'est pas possible, c'est juste pas possible. Est-ce que vous savez qu'en Allemagne, ils ne congèlent pas des embryons, hein? Ils n'en font pas une panoplie, donc ils n'en font pas 20-30 pour chercher. C'est interdit en Allemagne. Ils ont une politique où ils ne congèlent pas les embryons. Ils en font moins et donc ils n'en congèlent pas. C'est possible. Je vous ai dit, ces embryons sont voués à la destruction. En fin de compte, ils passent à la recherche. Ou ils peuvent signer un don à un couple stérile. Alors, j'ai lu sur internet une dame qui dit qu'elle ne peut juste pas signer. Chaque année, elle reporte. Et même le fait de penser donner ses embryons à des couples stériles, elle dit, mais même ça, j'arrive pas à le concevoir. Diapo suivante. Oh, bon, je vais vous dire. C'est l'histoire de cette dame. Elle a bénéficié de la PMA, elle a eu des enfants. Et c'est merveilleux. Sauf que, donc, dans sa boîte aux lettres, elle a tous les ans. Et elle dit, mais qu'est-ce que je vais faire des frères et sœurs de mes enfants? Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce qu'on en fait? Ceux qui sont vivants autour de moi, c'est les mêmes, c'était des embryons que j'ai. Donc ces embryons, c'est bien mes futurs enfants si je décidais de les avoir, mais je ne peux pas. C'est un véritable dilemme pour elle. Elle dit, un amas de cellules, dit la science. Oui, mais voilà, le petit qui joue à côté de moi au train électrique dans le salon, ben c'était lui aussi un embryon. Il était comme les autres. Diapo suivante. Bon, je vais passer, parce que ça aussi, ça me remue. Bref, les recherches sur l'embryon, si vous voulez, on en parlera. On passe. Vous savez ce que c'est que l'eugénisme? D'accord. Est-ce que j'ai besoin de développer ça? C'est très clair pour vous. On passe. Je vais juste finir par ça. Au bout de plusieurs années de suivi psychologique de ces enfants nés de la PMA, il s'est avéré qu'ils rencontrent beaucoup de problèmes psychologiques. Cela n'est pas... D'être né de la PMA n'est pas anodin. Même pour ceux qui l'ignorent, à qui on n'a pas dit. Vous savez, notre inconscient a des capacités merveilleuses et ils sont en proie à des problèmes et cela se manifeste par un syndrome du survivant. Vous connaissez le syndrome du survivant ? Je ne vais pas dire. Si vous avez des questions, vous me les posez parce que moi j'ai fini, n'est-ce pas ? Diapo suivant. Ces enfants aussi, diapo précédente, excuse-moi ma puce. Ces enfants sont en proie à une dette de vie multiple. C'est un concept psychologique et la dette de vie. Vous savez que vous êtes redevable à votre père et à votre mère de vous avoir donné la vie. Mais les enfants nés de la PMA, ils sont redevables à qui ? Je viens d'où ? Et même si ils trouvent leur géniteur, leur dette de vie est multiple parce qu'ils se doivent d'être reconnaissants aussi à l'équipe médicale. Et cela crée en eux un véritable problème. Ils ont besoin de suivi psychologique. Diapo suivant. Vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils sont les fils et les filles de l'appel de la vie à elle-même. Et moi, vous savez d'où vient la vie, n'est-ce pas ? Ils appartiennent à quelqu'un. Ils viennent seulement au travers de vous, de nous. Mais ils ne sont pas vraiment de nous. Et bien qu'ils soient avec nous, ils ne nous appartiennent pas. Nous pouvons leur donner tout notre amour, mais nous ne pouvons pas leur donner nos pensées. Ils ont leurs propres pensées. Ils sont uniques. Nous pouvons accueillir leur corps, mais pas leurs âmes. Leurs âmes habitent la maison de demain, l'éternité. Que vous ne pouvez visiter, pas même dans vos rêves, mais que nous visiterons, n'est-ce pas ? Moi, je me suis posé des questions. Hein. Ils sont où, ces enfants ? Ils sont où ? Quand on les jette à la poubelle. Diapo suivant.